VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. Voici les titres. 3 ans de prison requis hier soir contre 3 figures majeures de la société civile au Niger. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition, le MDC, a manifesté. Ils exigent des réformes pour permettre des élections libres et honnêtes le 30 juillet. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur l'imposition d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud d'ici la fin de semaine. Au sommet de l'OTAN, Donald Trump s'en est pris à l'Allemagne, accusé d'enrichir la Russie. Ne manquez pas la Minute Echo et le Mondial 2018 en Russie, avec la 2e demi-finale de la compétition entre la Croatie et l'Angleterre. Nicolas Pino sera avec nous dans 10 minutes, mais tout d'abord, le journal. À Niamey, au Niger, fin du procès mardi soir d'une vingtaine de personnes, dont 3 figures de la société civile arrêtées le 28 mars 2018 dans le cadre de la contestation de certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. Au cours de ce procès, le procureur a requis des peines allant de 1 à 3 ans contre les prévenus. Après plus de 15 heures de plaidoirie des avocats, le juge a mis sa décision en délibéré pour le mardi 24 juillet. Les détails avec notre correspondant Abdul Razak Idriss.
C'est sous haute surveillance policière que s'est déroulé le procès au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour l'occasion, les citoyens se sont mobilisés massivement, malgré une forte chaleur, afin d'aller soutenir la vingtaine de prévenus, dont les principaux sont Ali Idrissa, Moussa Tiangari et Nuhu Arzika. Les débats ont duré toute la journée et une bonne partie de la nuit de ce mardi 10 juillet 2018. À la fin, le procureur de la République a requis 3 ans d'emprisonnement ferme pour les 3 leaders de la société civile considérés comme les cerveaux de la manifestation, 1 an pour une dizaine d'autres et la relaxe pour 2 prévenus. Pour leur avocat, c'est un procès à relents politiques.
Dans ce procès, il y a un objectif politique assigné au pouvoir judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire de porter haut la fierté d'être magistrat. Nous avons donné tous les éléments de droit dans ce dossier. Maintenant, il appartient au juge de décider, non pas seulement de la relaxe, mais de décider aussi de ce que sera l'avenir des libertés fondamentales dans notre pays. C'est un procès pour l'ancrage, l'enracinement de l'état de droit dans notre pays.
La décision du juge est attendue pour le mardi 24 juillet prochain. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
Reporters sans frontières s'inquiète de la candidature à la tête de la francophonie de Louise Mushikiyambo, ministre d'un pays qui, selon l'ONG, dispose de l'un des pires systèmes de répression à l'égard des médias et des journalistes. La Rwandaise fait figure de favorite pour prendre la direction de l'OIF lors du prochain sommet de cette organisation en octobre, après avoir notamment reçu le soutien de l'Union africaine au début du mois. Au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF cette année, le Rwanda est 156e sur 180 pays classés. Les fonctionnaires de la Guinée-Bissau ont marché dans la capitale Bissau pour exiger une hausse du salaire minimum et des meilleures conditions de vie. Près de 1000 personnes étaient réunies à l'appel de l'UNTG, la centrale la plus représentative dans la fonction publique, avec ses 8000 membres sur quelques 13 000 fonctionnaires. En France, la justice monégasque a rejeté une demande de l'État du Sénégal de confisquer les fonds monégasques de Karim Wad, fils de l'ancien président Abdoulaye Wad et opposant au pouvoir condamné dans son pays pour enrichissement illicite. La décision de la justice de Monaco renforce le candidat Karim Wad dans sa détermination à défendre ses droits civiques et politiques, à saluer le collectif des avocats de Maître Wad dans un communiqué. À Dakar, 3e jour du procès en appel de Khalifa Sall. En première instance, le maire de la capitale a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie depuis lundi. La défense demande un renvoi pour récupérer dans son intégralité l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette cour a estimé fin juin que le procès en première instance de Khalifa Sall n'avait pas été équitable. Désormais, les avocats de l'État se suivent à la barre avec un objectif: démontrer que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a aucune valeur juridique. La Côte d'Ivoire a depuis hier un nouveau gouvernement avec 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 pour le le précédent. La nouvelle équipe est largement dominée par le RDR au pouvoir et des personnalités favorables au projet du président Alassane Ouattara d'avoir un parti unifié faute d'un accord avec son allié le PDCI en vue des élections de 2020. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le Conseil d'État du Burkina Faso a annulé hier des sanctions contre des magistrats limogés ou punis pour manquement à l'éthique et à la déontologie. Au Nigeria, 26 personnes ont été tuées en 2 jours dans des violences attribuées à des voleurs de bétail dans le nord du pays. Les criminels ont attaqué à moto plusieurs villages situés à la frontière entre les États du Sokoto et de Zamfara lundi et mardi. Ils ont tiré sur des habitants, brûlé des maisons et volé des vaches. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition, le MDC, Mouvement pour le Changement Démocratique, a marché devant le siège de la commission électorale. Ils exigent des réformes pour un vote crédible. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des milliers de partisans du MDC ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pas de réforme, pas d'élection » ou encore « Non à la manipulation du vote ». Les dirigeants du MDC ont remis une pétition à la commission électorale. D'après Menger Costa, député MDC, je cite, « La ZANU-PF va essayer de tricher lors de l'élection ». Le MDC dit craindre une tentative de le mettre dans une situation désavantageuse face à Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF. Il insiste sur un éventuel accord entre le parti au pouvoir et la commission électorale sur la façon de concevoir, d'imprimer et de stocker les bulletins de vote. En juin, Nelson Chamisa, candidat du MDC, a demandé à la commission électorale de permettre un audit du fichier électoral et d'assurer une couverture équitable de la campagne électorale par les médias publics. Il a rejeté les bulletins de vote en cours d'impression. Pour sa part, le président de la commission électorale soutient que seule sa structure est habilitée à traiter de la question. Le Zimbabwe se choisira un nouveau président et des députés le 30 juillet après la démission forcée de Robert Mugabe l'année dernière.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer en fin de semaine sur l'imposition d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud. Cette proposition américaine divise toutefois les membres du Conseil. Le gouvernement et rebelles ont signé un accord de partage du pouvoir il y a quelques jours, mais qui a été aussitôt dénoncé par les rebelles. Abdourahman Dia.
Un projet initial de résolution souligne une préoccupation profonde du Conseil de sécurité face à l'échec des dirigeants du Soudan du Sud à mettre un terme aux hostilités et aux violations flagrantes d'un accord de cessez-le-feu et de libre accès humanitaire conclu en 2015. Le projet américain établit un embargo sur les armes jusqu'au 31 mai 2019 à destination du Soudan du Sud. Il autorise les États membres de l'ONU à détruire ou neutraliser toute cargaison d'armes interdite. Au sein du Conseil de sécurité, plusieurs pays, dont la Russie, la Chine et l'Éthiopie, ne veulent pas d'un renforcement des sanctions pour ne pas mettre en péril la médiation menée par l'IGAD et qui a conduit à l'accord de samedi. Aussitôt conclu à Entebbe, les rebelles ont émis des réserves, estimant que le président Salva Kiir garderait une mainmise sur le pouvoir. Ce conflit a fait des milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et une crise humanitaire majeure.
La police ougandaise a eu recours ce mercredi à des tirs à balles réelles et à du gaz lacrymogène pour disperser une manifestation organisée pour protester contre une taxe controversée sur l'utilisation des réseaux sociaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est une sortie que l'on craignait. Donald Trump a lancé au premier jour du sommet de l'OTAN une attaque frontale contre l'Allemagne, accusée d'enrichir la Russie en lui achetant du gaz et de ne pas contribuer suffisamment aux efforts militaires de l'Alliance. Bagassikoura.
Très remonté, le président américain est resté sourd aux tentatives d'explication du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qu'il a rencontré avant l'ouverture officielle de la réunion à Bruxelles. L'Allemagne est complètement contrôlée par la Russie. Elle est prisonnière de la Russie, a-t-il martelé dans une diatribe contre la première puissance économique de l'Union européenne. Elle paye des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie et nous devons payer pour la protéger contre la Russie. Comment expliquer cela? Ce n'est pas juste, a-t-il asséné. L'Allemagne prend cette décision de manière indépendante, a rétorqué la chancelière allemande Angela Merkel. Donald Trump et Angela Merkel ont eu l'occasion de s'expliquer au cours d'un tête-à-tête après la première séance de travail. Le président américain a alors changé de ton, assurant avoir de très bonnes relations avec la chancelière.
Des chercheurs espagnols ont commencé à travailler sur le développement d'un vaccin qu'ils espèrent pouvoir être efficace contre toutes les souches du virus Ebola. Ces chercheurs de l'hôpital public madrilène du 12 octobre travaillent depuis des mois en collaboration avec deux autres établissements de la capitale espagnole sur des échantillons de sang de trois patients atteints par le virus et soignés en Espagne. Leur défi est de produire des anticorps à grande échelle à travers un vaccin qui puisse être efficace contre toutes les souches du virus, a expliqué Raphaël Delgado, responsable du service de microbiologie de cet hôpital. Le microbiologiste a indiqué espérer d'ici un an les résultats des tests effectués sur des souris. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco.
Trois établissements financiers lancent le cash pick-up au Sénégal. Le cash pick-up est un service bancaire qui permet l'envoi instantané d'argent à l'international grâce à son téléphone ou à son ordinateur. World Remit, Global Money Transfer et la Banque Régionale de Marché ont développé ce service au Sénégal. Selon Financial Afrique, les expatriés peuvent ainsi envoyer des fonds depuis une cinquantaine de pays par message instantané à travers l'application mobile World Remit. Les bénéficiaires, eux, peuvent retirer cet argent dans deux agences, BRM à Dakar et 45 points de collecte à travers les zones rurales du Sénégal. BRM et GMT disposent d'un réseau étendu d'agences bancaires au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Après des années de vaches maigres, les chiffres du tourisme sont en hausse en Tunisie. Plus de 3 millions d'étrangers sont arrivés dans le pays au premier trimestre 2018, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente. C'est une reprise remarquée après plusieurs années difficiles suite à la chute de Ben Ali en 2011 et aux attentats en 2015. La Tunisie espère accueillir 8 millions de touristes en 2018. Les exportations de pétrole ont repris en Libye après plus de deux semaines d'arrêt dû à un bras de fer entre les autorités politiques rivales sur la gestion des stratégiques revenus de l'or noir. Ce blocage a provoqué une chute de la production et des pertes estimées à près d'un milliard de dollars.
C'est l'heure du Mondial 2018 en Russie. Nicolas Pineau, ce mercredi, est marqué par le deuxième et dernier jour des demi-finales entre l'Angleterre et la Croatie en cours. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous. Le coup d'envoi depuis 18h, temps universel à Moscou entre la Croatie et l'Angleterre. Et pour le moment, ce sont les Anglais qui mènent 1-0. Un but ainsi de la 5e minute par Trippier dès l'entame de match. Les Anglais qui pour le moment donc se qualifient pour la finale, mais il reste bien évidemment 45 minutes.
Et depuis hier, on connaît le nom du premier finaliste de cette Coupe du Monde.
Et oui, la France a fait le dos rond hier face à une équipe de Belgique dynamique. Les Diables Rouges n'ont pas su concrétiser leur bonne entame de match face à des Bleus expérimentés. C'est sur coup de pied arrêté que Samuel Umtiti de la tête en deuxième période a permis à l'équipe de France de se qualifier pour la troisième finale de son histoire. On va écouter la joie de Didier Deschamps en conférence de presse après le match.
Le mérite en revient aux joueurs, parce que ce sont eux les acteurs et ils font tout. Et ensemble, ça fait 49 jours que nous sommes ensemble depuis le premier jour de la préparation. Qui l'eût cru, à part vous bien sûr, qu'on allait être en finale de Coupe du Monde. Mais autrement, voilà, c'est, il faut savourer, il faut apprécier. On va passer 48 heures, déjà ce soir et demain, partager ce bonheur-là avec nos familles, puisqu'elles sont là.
Voilà Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Cette victoire a aussi inspiré Jules Valentin pour son coup de sifflet.
La France qui sort victorieuse de la finale avant la lettre, l'opposant au voisin belge, c'est le dernier obstacle qui conduit vers l'objectif initial non avoué. Ramener cette Coupe du Monde de Russie et effacer la déception finale de l'Euro 2016. Dans un match serré et tendu où l'enjeu a tué le jeu, l'équipe de France, disciplinée tactiquement en défense, lucide et réaliste en attaque, a trouvé la faille sur un coup de pied de coin bien repris par Umtiti à la 51e minute. Dès lors, le service minimum rempli, les Français qui se retrouvaient dans la configuration tactique qui leur réussit le plus ont su contenir une équipe belge qui n'a pas pu profiter de son temps fort dans la première demi-heure de jeu. Les Belges paient cher le non-respect d'une logique élémentaire. C'est en attaquant qu'une équipe faite pour marquer doit espérer gagner un match capital. Pour l'équipe de France, cette deuxième finale d'affilée, après celle de l'Euro 2016, confirme le statut actuel de la sélection comme puissance incontestable du football mondial, mais l'heure n'est pas encore à l'autosatisfaction. Il reste un essai à transformer. À demain.
Au moment où nous parlons, les partis politiques et les regroupements.
Merci Jules, c'est la fin de ce journal de la Coupe du Monde. Merci également Nicolas. Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La Côte d'Ivoire a depuis hier un nouveau gouvernement avec 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 pour le précédent. La nouvelle équipe est largement dominée par le RDR au pouvoir avec des personnalités favorables au président Alassane Ouattara d'un parti unifié faute d'un accord avec son allié, le PDCI, au vu des élections de 2020. Idriss Fall a recueilli la réaction de Christophe Kwame, président de CIVI-CI, une association de la société civile à Abidjan.
C'est un gouvernement très politique pour régler le problème du parti unifié. Et de l'autre côté, le Premier ministre a ajouté un volet social avec l'introduction de la société civile. Pour ce qui concerne le volet politique, le président Ouattara, à travers son Premier ministre, veut se donner les chances d'aller jusqu'au bout pour son projet de parti unifié.
Mais ça n'a pas consacré une rupture totale avec le PDCI.
Nous avons entendu une réaction du président de qui dit que les ministres PDCI qui sont restés dans le gouvernement n'ont pas eu l'aval du parti en tant que PDCI. Donc, à l'évidence, ces ministres qui se sont alignés sur le courant, sur les traces de Fourboigny lancé il y a trois jours par M. Adjoumani, ont clarifié leur situation en allant au niveau du RHDP.
En arrière-fond, les élections de 2020 alors?
Non, absolument. Pour se donner les chances de 2020, le gouvernement avec le Premier ministre ont choisi premièrement d'écrire tout en grand que c'est un gouvernement RHDP plus la société civile. Cela a donné un remue-ménage. Qu'est-ce que la société civile va faire dans un gouvernement politique? Mais en même temps, tous les membres de la société civile ivoirienne sont sur le terrain, sont proches des populations, le porte-voix des sans-voix. Du côté purement politique, vous avez vu que pour augmenter la capacité de mobilisation sur le terrain, pour se donner les chances de 2020, plusieurs ministères ont été découpés en deux ou en trois pour certains. Donc tous ces éléments-là nous confortent que 2020 est déjà aujourd'hui au gouvernement.
Même si Alassane Ouattara n'a rien dit de ses intentions, on a comme l'impression qu'il se prépare lui-même à se jeter dans la course.
Il a annoncé lors d'une interview il y a à peine un mois que la deuxième constitution donnait les moyens d'être candidat. Les membres du parti RDR, le parti de M. Alassane Ouattara, ont annoncé il y a trois jours seulement qu'ils proposent que le président Ouattara, qui est jusque-là président d'honneur du RDR, soit le président du parti unifié. Donc, le parti unifié, qui peut s'appeler RHDP ou non, avec tous ces micro-partis qui ont accepté d'aller dans ce gouvernement, va se donner un congrès, des statuts très bientôt, avec proposition du parti majoritaire RDR, M. Alassane Ouattara, comme président de ce parti. Quelque chose se prépare pour 2020, donc que le président Ouattara ait dit ou non qu'il sera candidat, il y a une suspicion légitime d'un observateur que nous sommes.
Christophe Kwame, président de CIVI-CI, une association de la société civile à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'accord historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour mettre un terme à deux décennies d'état de guerre qui avaient déchiré les deux pays frères. Quelles sont les réactions à cet accord de paix? Le processus ira-t-il jusqu'au bout? Que représentent pour l'Éthiopie les réformes que multiplie le Premier ministre Abiy Ahmed? A-t-il le soutien de toutes les couches de la population éthiopienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h30.
En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 23 décembre 2018, affirmation de Bruno Tshibala, premier ministre du pays, dans une interview accordée à John Lindon, notre envoyé spécial sur place. Le chef du gouvernement congolais évoque aussi la candidature du président Joseph Kabila, un sujet qui, à son avis, n'a pas lieu d'être, car, dit-il, l'actuel président respectera la Constitution et donc ne se représentera pas.
Au moment où nous parlons, les partis politiques et les regroupements sont en train de se bousculer à la porte de bureaux d'enregistrement des candidatures pour déposer justement leur candidature. Et donc, tous les saints Thomas sont aujourd'hui édifiés. Le Premier ministre Tshibala a tenu parole. Les élections vont se dérouler dans notre pays suivant le calendrier publié par la CENI. Et aujourd'hui, on enregistre les candidatures au niveau de législative provinciale. Demain, ça sera les législatives nationales et la présidentielle. Et donc, au 23 décembre 2018, ça sera le peuple congolais qui va parler.
Jusqu'ici, le président Kabila en personne n'a pas encore dit si oui ou non il ne sera pas candidat.
Deux choses. La première, il ne s'agit pas de penser que le président Kabila va se représenter ou pas. Le président Kabila a toujours dit qu'il va respecter la Constitution. Et vous savez que nous sommes maintenant, comme je venais de le dire, dans les opérations d'enregistrement, c'est-à-dire que le président Kabila a tenu parole.
Bruno Tshibala, Premier ministre de la République démocratique du Congo. L'extrait de cette interview sera également disponible dès demain sur notre site internet VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Coup de projecteur sur l'apatridie à la faveur du sauvetage de jeunes footballeurs d'une grotte souterraine en Thaïlande. Au moins 3 des 12 garçons ainsi que leur entraîneur sont des apatrides, c'est-à-dire des gens qui ne sont reconnus comme citoyens d'aucun pays au monde. Au moins 10 millions de personnes se trouvent dans cette situation dans le monde. En 2015, les pays ouest-africains ont lancé une initiative visant à les aider. Pour en parler, Timothée Donambay a joint Romain Declou du bureau ouest-africain du HCR à Dakar. Nous avons un léger problème technique, mais le sujet devrait démarrer dans quelques instants. Alors, on passe au prochain sujet. Le sommet de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui en Belgique. Le président américain a dénoncé le comportement de certains alliés en matière de financement de l'Alliance. Donald Trump souhaite un partage plus équitable des dépenses militaires. Raissa Girondin joint à Paris Corentin Brustein, directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI.
La question de l'effort de défense en Europe, c'est une question sérieuse et importante, et les critiques américaines à l'égard des dépenses d'un certain nombre de pays européens sont justifiées. D'ailleurs, elles ne datent pas de Donald Trump. S'il y a une continuité là-dessus du côté américain, c'est aussi parce qu'il y a une continuité du côté européen, une certaine quantité d'États, on va dire, à sous-investir dans leur défense. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que la situation a bien changé au cours des dernières années et finalement, la perception de la part des Européens qu'il faut accroître l'effort de défense, elle existe déjà. L'effort de défense, depuis la fin de la guerre froide, il baissait. Aujourd'hui, il augmente. Ça ne date pas de Trump, ça date de la Crimée, ça date de la réaffirmation russe, ça date également du terrorisme. Et donc, il y a une prise de conscience du côté des alliés européens de l'OTAN qu'il fallait investir davantage dans leur défense.
Donc, le mauvais élève dans cet effort d'investissement?
Alors, le mauvais élève que blâme Trump, c'est évidemment l'Allemagne, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que bon, l'Allemagne a des plans d'accroissement de son budget de la défense, qu'il soit perçu comme suffisant ou non, c'est autre chose, mais on ne passe pas d'une situation où on dépense 1,3% du PIB à une situation où on dépense 2% en 2 ans. C'est impossible, ce serait de l'argent jeté par les fenêtres qu'on ne saurait pas utiliser.
Il aurait peut-être par là dénoncé aussi une relation très particulière entre les Allemands et les Russes.
Il y a des connexions qui existent entre l'économie allemande et l'économie russe, mais l'Allemagne n'a pas cherché à freiner l'adaptation de la posture de l'Alliance face à la Russie du tout. Puis depuis 2014, à mon sens, la critique n'est pas justifiée. Il y aurait d'autres pays qui seraient peut-être plus exposés face à ce genre de critique.
Alors aujourd'hui, à quoi sert l'OTAN ?
La question de la pertinence de l'OTAN se posait particulièrement après la guerre froide, parce qu'on ne voyait pas quelle pouvait être la menace majeure qui pourrait mettre en danger l'Europe collectivement. On voit aujourd'hui que celle-ci n'a pas totalement disparu et qu'elle peut réémerger, y compris rapidement. Donc il y a déjà une nécessité de défense collective, même du point de vue strictement américain. Alors, les 700 milliards de dollars que les États-Unis dépensent pour leur défense ne sont pas 700 milliards qui vont à l'OTAN. Il y a un certain nombre de déploiements, de capacités qui vont en Europe et dont l'Europe est reconnaissante. Mais c'est aussi un instrument d'influence assez exceptionnel. C'est-à-dire la capacité américaine à pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui peuvent les aider dans les opérations, peut-être pas en Europe, mais peut-être au Moyen-Orient par exemple, ou en Afrique, où les États-Unis ont pu être heureux, notamment pendant la guerre en Irak ou en Afghanistan, les États-Unis étaient heureux de pouvoir compter sur des alliés, parce que ça a une valeur politique, ça a une valeur militaire, de ne pas avoir à s'engager seul sur des théâtres extérieurs.
Corentin Boustelin, directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI, joint à Paris. Je vous laisse à présent écouter le sujet sur l'apatridie.
Les apatrides, déjà, sont des personnes qui sont comme vous et moi, mais qu'aucun État ne reconnaît comme étant leurs citoyens. Ce qui veut dire qu'au quotidien, ils se sentent invisibles. Par exemple, ils ne peuvent pas aller faire une consultation dans un hôpital ou un centre de santé, quand souvent on va leur demander une pièce d'identité ou un acte de naissance. Les enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école, parce que là encore, on va leur demander à l'inscription à l'école une pièce d'identité, un acte de naissance. Ils ne vont pas pouvoir aller à l'université pour pouvoir suivre une éducation. Ils ne vont pas pouvoir ouvrir un compte en banque, par exemple. Et de fait, cet ensemble d'impossibilités pour eux de vivre et de jouir pleinement de la qualité de citoyen les empêche d'avoir un avenir. Ils peuvent souvent, cela les rend même plus vulnérables à toutes les possibles, les possibles violations. Par exemple, s'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas avoir un contrat de travail, ils ne peuvent pas ouvrir un compte en banque, ils vont souvent être ceux les plus à même à être utilisés pour le travail clandestin. Souvent, certains vont aussi chercher à avoir une opportunité économique ailleurs et à ce moment-là, entrer dans des situations de mouvements mixtes vers l'Europe ou d'autres pays voisins. Donc, leur situation est assez délicate et nécessite de fait une protection, ce qui est notre travail, notre mandat au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est aussi ce que nous faisons pour aider les pays de la région d'Afrique de l'Ouest à les accompagner pour qu'ils puissent améliorer la protection législative pour s'assurer qu'il n'y ait plus de personnes apatrides en 2024.
Alors ces pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté en 2015 la déclaration d'Abidjan visant à éradiquer l'apatridie. Quel bilan peut-on en faire ?
Déjà, enfin, l'ensemble des pays sont engagés. Ça n'est pas mince. L'ensemble des pays de la région ont également désigné ce qu'on appelle des points focaux au sein des gouvernements pour être des référents au sein de ces gouvernements sur la question de l'apatridie. C'est aussi l'Afrique de l'Ouest, c'est la première région au monde à s'être dotée l'an dernier d'un plan d'action contraignant pour aboutir à l'éradication de l'apatridie d'ici 2024. Donc ça, c'est certes, c'est une déclaration, c'est un engagement fort et qui s'accompagne de mesures précises. Par exemple, au Burkina Faso, des actes de naissance ont pu être distribués cette année, un peu plus tôt dans l'année, à des personnes qui n'en avaient pas. En Côte d'Ivoire, plus de 8000 personnes sont vues remettre un acte civil prouvant leur citoyenneté à la suite d'une procédure spéciale. Il y a par exemple la Sierra Leone qui a modifié sa législation l'an dernier pour assurer une égalité entre hommes et femmes dans la transmission de la nationalité. Ce qui veut dire que les femmes ne sont plus discriminées dans la possibilité de donner à leurs enfants la nationalité.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Sims Loumani, à la console, Sidrak Franklin et Kabadou à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet VOA Afrique pour plus d'actualités. Excellent suite de programme. We'll be right back.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.